Ce que je vous propose de faire, c'est de commencer par évoquer un peu le palmarès, hein, dans la mesure où le FICA a, alors je ne les ai pas comptés, mais a beaucoup de prix.
Bah, il y a tellement de prix qu'il y a 7 films sur les 9 en compétition qui ont été récompensés. Et je pense qu'il y a une dizaine de prix, après je les ai pas comptés, mais
Et ça prouve aussi la qualité des films cette année, parce que les différents jurys ont récompensé beaucoup de films différents, ce qui est rare, parce que bien souvent dans les festivals, c'est un film qui rafle tous les prix, et là, ça a été vraiment varié.
Donc le premier prix, c'est le jury international qui donc était présidé par Briente Mendoza, qui a récompensé un film que je n'ai pas vu. Donc je vais vous laisser parler de Ten Minutes. Ten Minutes, vous avez, oui, ça c'est mon magnifique accent anglais. Donc est-ce que ce film, d'après vous, méritait ce prix du jury? Et est-ce qu'il y a des liens d'ailleurs avec le cinéma de Briente Mendoza dans ce film coréen ou pas du tout?
Bah, je pense que Mendoza a été sensible au côté peinture un peu sociale du film. Yannick, tu m'arrêtes si tu penses que je me trompe, mais il y a un côté quand même qui se veut assez réaliste dans le film, dans la manière dont c'est montré, même dans ce qui est montré, parce que c'est un film qui est extrêmement quotidien, avec des scènes qui se passent beaucoup dans un bureau. C'est quasiment un huis clos dans une espèce de bureau avec des demi-cloisons comme ça, un endroit assez horrible d'ailleurs. Et moi, je me suis dit que Mendoza avait peut-être aimé ce côté assez réaliste, assez limite documentaire.
De quoi parle le film, Yannick?
Ouais, alors c'est vrai qu'on se retrouve dans le film à suivre ce jeune qui est, on va dire, soutien de famille, parce que sa famille ne compte vraiment que sur lui, et qui se retrouve en difficulté entre choisir entre sa famille, son boulot. Il a une opportunité et il sait pas trop quoi faire, quoi.
Et tu es d'accord avec le jugement de Marie-Pauline sur le film?
Mais écoute, c'est vraiment tout à fait ça, parce que c'est vrai que Mendoza, on le sait, il fait des films dans la même veine. Donc je pense que c'est ça qui l'a touché le plus, à mon avis, hein, c'est ça. Maintenant, le film, est-ce qu'il méritait le Cycle d'Or? Ben écoute, pourquoi pas, c'est pas, pour moi, c'est pas forcément le meilleur, mais c'est un bon film quand même.
Et vous l'avez vu un peu venir sur le cycle d'or ou pas du tout?
Bah, le truc qui pouvait mettre la puce à l'oreille, c'est que le film a déjà une petite moisson de prix, notamment à Busan, qu'il a gagné le prix de la presse internationale, et je crois qu'il avait également le prix du public, ce qui est quand même assez rare pour un film de cumuler ces deux prix. Donc il y avait effectivement un indice que c'était un film qui allait être intéressant et qu'on pouvait retrouver au palmarès. Moi, j'ai quand même été un peu surprise de le retrouver aussi haut placé au vu du reste de la compétition. Parce qu'effectivement, je suis comme Yannick, moi c'était pas mon préféré, ça aurait pas été mon choix. Je vois bien ce qu'il a voulu faire, l'ambivalence des rapports humains, il y a un côté absence de loyauté, il y a les difficultés économiques qui viennent se rajouter là-dessus, donc il y a effectivement un côté presque chirurgical dans son observation de la société et surtout de ce microcosme professionnel et familial. C'est extrêmement bien filmé aussi. Alors peut-être que les jurés ont pu être sensibles à ça. C'est qu'il y a une qualité d'image absolument magnifique pour un film qui a été fait avec très peu d'argent, apparemment, et qui quand même se passe tout le temps dans cette espèce de huis clos de bureau. Et c'est vrai que c'est esthétiquement, c'est très beau, c'est très bien composé. Il y a un vrai travail cinématographique sur le film.
Ok, oui, parce que on va justement, je pense qu'on peut passer un peu film par film et dresser un petit bilan à la fin de la qualité globale, effectivement, et cinématographique des films de la compétition. Le jury international a décerné en fait trois prix. Le deuxième prix, qui était le grand prix, c'était Nobody's Home, qui est un premier film d'une jeune réalisatrice turque qui s'appelle Deniz Aksay. Je ne sais pas si je le prononce bien, personne ne parle turc autour de la table. Bon. Et donc, il s'appelle Nobody's Home, qui est là aussi avec un très fort contenu social qui raconte en fait le quotidien d'une famille en Turquie qui a perdu le chef de famille qui est le père, qui est a priori décédé. Il y a un doute qui plane autour du film justement sur une disparition, mais qui semble être un décès. Et sur la manière en fait dont ça affecte la famille, et notamment la fille aînée qui porte en charge en fait toute cette famille. Donc on est dans une chronique sociale réaliste. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça vous a plu? Jérémy?
Bah, j'avais trouvé ça très intéressant dans la mesure où, où il y avait cette galerie de personnages un peu tous perdus, ne sachant pas quoi faire dans la vie. Mais surtout, ce que je retiens de ce film, c'est cette âpreté un peu dans les rapports. Il y a un côté un peu brut qui m'a beaucoup plu. Et ce personnage de la mère qui est assez effrayant, une sorte de. Ouais, une sorte de femme un peu, une sorte de sorcière qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, qui n'arrive pas à se remettre du départ de son mari, quoi, de la mort de son mari, ou du départ, on ne sait pas vraiment, et qui gâche un peu sans le vouloir la vie de ses enfants, et c'est un portrait à la fois émouvant et en même temps assez effrayant, quoi. C'est un portrait de femme assez effrayant.
Oui, ça, parce y a non seulement la fille unique donc, qui porte cette famille, mais la mère qui a un rôle extrêmement important, en fait, qui est incapable d'une quelconque autonomie, mais qui pourtant continue à avoir une influence qui va sur ses enfants, qui les rend aussi complètement dépendants d'elle.
Puis elle est sans
C'est-à-dire que
arrêt
c'est sa
filmée, excuse-moi.
dépendance. Oui.
Puis elle est sans arrêt filmée un peu comme une sorte de, voilà, comme une sorte de monstre qui pompe l'énergie de ses enfants et surtout de sa fille d'ailleurs. Et ouais, c'est très bien, ouais, c'est très bien pensé, c'est très bien montré. Et on ressent vraiment le désespoir de ses enfants qui sont tous un peu chacun de leur côté. Et puis on les voit quand ils rentrent dans dans ce microcosme-là, quand ils rentrent dans cette maison et tu les sens qu'ils sont, voilà, ils sont pompés de toute énergie et de tout espoir.
Oui,
Ouais,
une vampirisation,
une
effectivement,
vampirisation, je cherchais le mot, merci
par la mère.
Victor.
Moi, elle m'a presque fait penser à la mère de Tony Soprano, en fait.
Bah
Dans Les
oui, il y a de
Sopranos,
ça. Il y a de ça.
c'est un peu ça.
Oui, mais ce qui est très joli dans le film, c'est qu'on a cette mère horrible, envahissante, et ça pourrait sombrer dans quelque chose de complètement misérabiliste et glauque. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que finalement, les personnages, notamment le personnage de la fille aînée, arrivent à avancer. Et finalement, c'est un peu l'histoire de sa libération, parce qu'elle s'oppose petit à petit à sa mère, elle le fait à sa manière. Qui reste assez douce et tout ça, mais n'empêche qu'elle l'envoie un peu promener, et que à la fin, elle vit sa vie, elle veut vivre sa vie, et tant pis pour sa mère.
Mais elle l'envoie promener, mais en même temps elle se marie avec un homme qu'on voit qu'elle ne l'aime pas. Et elle se marie par défaut, vraiment pour échapper à sa mère, quoi.
Il y a quand même un goût du sacrifice. Enfin, le personnage se sacrifie d'une certaine manière pour échapper à un destin qui est
Parce
encore
qu'on
pire.
montre cet homme, c'est un très beau personnage d'ailleurs, de cet homme-là qui a l'air très gentil, très amoureux, mais qui lui-même se persuade que ça peut marcher, mais en fait on voit très bien qu'il y a une scène assez difficile quand ils sont dans la voiture et qu'ils s'embrassent, c'est assez malaisant, quoi. Et tu sens qu'il n'y a pas d'amour et qu'elle fait ça vraiment pour se. D'ailleurs, elle se brosse les dents après, c'est assez. Et donc,
Oui, mais le fait qu'elle aille contre la volonté de sa mère et
voilà.
qu'elle épouse cet homme, même si c'est peut-être pas c'était peut-être pas le rêve de sa vie, je trouve qu'il y a quand même le signe. Ça aurait été vraiment trop gros si dans le film, tout à coup, elle envoyait tout balader, elle se mettait à faire tout ce qu'elle veut et tout ça. Il fallait quand même garder un peu de nuance dans le film. Et finalement, cet échappatoire, ça laisse aussi une fin ouverte parce qu'on sait pas après
Bah
ce qui
ouais,
va se
surtout
passer.
la fin, oui, elle est assez ouverte, puisqu'on ne sait pas si elle s'est suicidée, si elle, déjà si elle va mourir, mais en même temps, on ne sait pas si elle s'est suicidée par pur égoïsme.
Ouais, raconte pas la fin,
Oui,
puis
c'est
en plus
vrai.
là tu parlais du personnage de la mère et pas la fille qui ne se
Ah,
suicide
il
pas.
restait un doute pour les auditeurs qui n'ont pas vu le film, donc qui se disent, peut-être qu'on va le voir. Et donc, non, la mère se
Non
suicide
mais
peut-être à
vous ne
la
le
fin.
verrez jamais, il ne sortira jamais. Ouais, donc oui, bon, je ne parlerai pas trop tard, vous m'avez coupé, c'est fini.
Yannick, tu es d'accord avec le sentiment qu'on a sur ce film, qui est quand même
Bah
plutôt
écoute,
bon
oui,
quand
c'est vrai
même.
que moi je trouve que c'est comparable à 10 minutes dont on parlait tout à l'heure, parce que là, cette fois-ci, c'est une fille qui est en froid, on va dire, entre son job, entre sa vie perso et entre sa mère. Et voilà, faire un choix, c'est vrai que le personnage de la mère est tellement fort dans ce film que c'est ce qui fait la grande force du film.
Et l'adolescent, alors vous en pensez quoi du personnage de l'adolescent? Il est un peu.
Alors lui, c'est l'adolescent qui me paraît perturbé parce qu'il n'a plus le père. Et voilà, donc on essaye de se mettre à sa place, sans père, se retrouvant seul avec sa mère. Voilà.
Puis cette relation avec la mère de son copain, c'est un
Oui.
peu, c'est un petit peu édipiant tout ça.
Je pense qu'il y a un truc un peu culturel aussi dans ce personnage, c'est que finalement c'est lui qui devrait se retrouver le chef de famille, qui peut pas ou qui veut pas assumer ce rôle, on sait pas trop, puisqu'il y a sa sœur aînée qui le fait. Et lui, il cherche clairement, peut-être justement à pas tomber dans le travers de sa sœur, lui il veut vivre sa vie.
Il y a quand même une fuite aussi certaine du personnage. Le personnage féminin, enfin de la fille, se trouve emprisonnée dans une situation qu'elle n'a pas forcément choisie. Et lui s'enfuit, s'échappe complètement. Mais... Bon, bah, je pense qu'on peut passer au prix suivant, qui était alors, la mention spéciale. Je ne sais pas si le festival fait ça tous les ans, j'ai pas l'impression. Mais donc là, qui a été donné à Kissa. Donc, qui était le seul film indien de la compétition. En même temps, la compétition représentait à peu près. Bah, sauf il y avait deux films japonais, qui étaient très mauvais, on va y revenir dans quelques minutes, représentaient à peu près un film par nationalité. Donc, c'est le deuxième film d'Anoop Singh qui a mis 12 ans pour arriver à conclure son financement de Kissa. Ça a été extrêmement difficile. Donc, de faire un film à la fois en costume, puisque l'histoire commence en 1947, je crois, et qui raconte en fait donc l'histoire d'un homme qui décide, après avoir eu trois filles, d'élever sa fille comme si c'était son fils, et les conséquences que ça va avoir sur la vie de sa famille et surtout sur la vie de son fils. Donc c'est un film qui est à la fois très esthétique, avec une très belle photographie, et qui interroge la notion de genre en Inde. Quel a été votre sentiment sur le film, Marie-Pauline?
Moi j'aime beaucoup le film. D'ailleurs, je ferai un aparté en vous faisant remarquer qu'on parle quand même beaucoup de famille dans la sélection cette année. Et c'est assez surprenant, pas qu'on parle de famille, mais qu'on en parle comme ça. Parce que je trouve que les familles sont quand même toutes déconstruites, montrées pas forcément sur leur meilleur jour. Tout à l'heure, on avait une mère assez horrible. Et là, on a un père qui est à sa manière aussi monstrueux. Donc cet homme qui ne supportant pas de ne pas avoir d'héritier mâle décide d'élever carrément sa quatrième fille comme si c'était un garçon, en mentant à tout le monde, mais en lui mentant à elle aussi. Donc c'est ce qui est le mensonge au cœur du film. Et finalement, ce film venu d'Inde nous apporte un message que je trouve extrêmement moderne et extrêmement intéressant, parce qu'il montre qu'élevée comme un garçon, elle ne peut plus ensuite se repenser comme une fille. Quand elle fait des tentatives en tant que spectateur, on voit bien que elle est déguisée quand elle est en fille et pas quand elle est en garçon.
Alors, pour moi, c'est un film que j'ai eu beaucoup de mal à voir. Hein. On se rappelle ce petit détail. Donc, j'ai fini par le voir quand même, et heureusement. Un film merveilleux, les images, la qualité des images, la qualité des acteurs. Tout est vraiment bien. Il y a un petit côté Bollywood pendant quoi 2-3 minutes, c'est tout. Pour pas, je pense que c'est pour vendre plus facilement à l'étranger.
C'est-à-dire qu'il y a deux chansons dans le film. C'est
Voilà.
traduction.
C'est vrai que moi, ce qui m'a déçu, c'est les 10 dernières minutes que je ne raconterai pas, mais voilà, je
Si, si,
trouve qu'il y a eu
raconte-moi.
un.
Jérémy va le faire, donc.
Voilà, ouais, je vais lui laisser l'occasion de le faire. Mais c'est vrai que les 10 dernières minutes, moi, m'ont déstabilisé et ça a fait pencher mon choix vers un autre.
Alors, c'est vrai que le film est toujours à la limite du fantastique, et prend un peu un prétexte de conte, et est un peu filmé comme un conte, et va vraiment, je ne vais pas raconter la fin non plus, et d'autant que le film va sortir en 2015 en France, donc on aura l'occasion d'y revenir, et vous pourrez le voir, celui-ci. Mais c'est vrai que la dernière partie est vraiment finalement, abandonne l'aspect réaliste qu'on pouvait voir pendant tout le film et vire vraiment vers le fantastique, vers le conte et vers la métaphore en fait. La fin est beaucoup plus métaphorique, voire allégorique, que ce que laissait entendre le film dans tout son déroulement. Donc c'est vrai que ça peut un peu surprendre de finir sur une note où la mise en scène embrasse vraiment ce côté fantasmagorique. Hein.
Voilà, peut-être que si on nous l'avait présenté comme un film fantastique, ça aurait peut-être été différent, parce que c'est vrai que si on s'y attendait, Voilà, mais là, on est dans un drame, on s'y attend pas du tout, et d'un seul coup, ça vire sur le fantastique, c'est déstabilisant.
Oh, mais c'est bien d'être déstabilisé au cinéma.
Oui, tout à fait, tout à fait. Mais bon, quand on s'y attend pas dans un festival, voilà,
Ils auraient dû mettre un carton. Ceci est un film fantastique.
Moi, ça ne m'a pas gêné comme ça, parce que justement, je m'attendais à une échappée plus ou moins onirique,
On
un
le
petit peu
sent
comme
quand
ça.
même.
Parce que enfin, je trouve que c'est quand même amené par l'aspect conte du film, qui est quand même très,
Très marqué.
très, très marqué. Par contre, j'ai trouvé que c'était un petit peu facile, sur la fin, de le terminer en allant vers l'allégorie totale. Enfin, c'est une. Ça permet effectivement d'avoir une conclusion voilà, qui me semble un petit peu facile par rapport au destin des personnages et permet enfin, voilà, d'avoir une résolution qui soit assez fermée, de pouvoir les sauver ou pas. Enfin, donc voilà, moi j'étais plus déçu par rapport à disons, à la structure scénaristique de l'ensemble et pas par le ton.
Je dis rien, j'ai peur de spoiler, donc j'ai peur.
Tu racontes pour la fin?
Non, mais j'ai envie, mais. Non, mais on le sent bien, quoi, dès le début, avec ce générique un peu enchanteur, etc. Puis même sa façon de filmer les persos, voilà, ce postulat de cette petite fille qui est élevée comme un garçon. Voilà, on voit le conte, on le sent arriver, quoi. On sait que. Bon, on se dit pas que ça va partir dans l'allégorie totale, etc. Mais ce changement m'a pas surpris. Et au contraire, m'a beaucoup touché, en fait.
Donc la fin t'a touché, ouais.
Là, la fin m'a beaucoup touché, ouais. J'étais vraiment pris par le. Puis même, c'est pourquoi l'imagerie que l'imagerie est magnifique, quoi. J'ai encore les plans, j'ai encore le plan. J'ai envie de spoiler, mais je ne spoilerai pas. Mais
Raconte un plan du milieu du film.
j'ai encore ce plan en tête et c'est des images qui hantent. Et c'est un film, ouais, c'est un film aux images évocatrices, vraiment.
Moi, je suis un peu plus mitigé aussi sur les images. C'est vrai que j'ai trouvé le film assez esthétisant par moments. Enfin, là aussi, je trouve
J'ai
qu'il y
pas
a une
trouvé, hein.
facilité de faire finalement de la belle image pour raconter. J'ai été touché par le fond du film,
C'est un
la
livre d'images,
forme.
quoi, c'est un
Voilà,
conte.
on est un peu, oui, dans cette forme un peu ostentatoire comme ça de la belle image, de la belle photographie, des mouvements de caméra. Moi, c'est vrai que je suis beaucoup moins sensible à cette narration,
Pas un
à
esthète.
cette image. Et par contre, il y a Irfan Khan qui a le rôle principal,
Qui est prodigieux.
enfin le rôle principal, qui joue le père et qui est terrifiant enfin, dans ce personnage. Là, on l'a vu récemment dans The Lunchbox, où justement il a un rôle, bon, enfin c'est un vieil homme un peu aigri qui arrive justement à trouver une certaine forme d'humanité, mais c'est rare de le voir dans un rôle aussi brut, en fait, Irfan Khan. Donc c'est quand même une belle performance d'acteur.
Bah, Anoop Singh nous disait d'ailleurs qu'il voulait pas le rôle au début, qu'il avait dû attendre un an qu'il avait mis un an pour le convaincre d'accepter le rôle. Donc après c'est vrai que c'est une superstar en Inde et pour lui de jouer ce genre de rôle un peu voilà très très difficile, c'est difficile à accepter, quoi. Mais il le fait, voilà, c'est fort.
Donc je pense qu'on reparlera certainement de ce film lors de sa sortie en France, puisque c'est une coproduction,
C'est Arte,
c'est Arte, donc franco-allemande et
franco-allemande
indienne.
et indienne.
Donc il y a de très fortes chances pour qu'il sorte dans nos contrées. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur ce film qui a aussi eu le prix Inalco, ce qui semble assez logique en fait, vu que enfin, il y a un travail aussi sur la langue, c'est tourné en Punjabi. Donc il a eu des problèmes d'ailleurs de financement parce qu'il voulait le faire en hindi et enfin il voulait le faire en Punjabi et pas en hindi alors que la production en Inde est plutôt bollywoodienne pour ce genre de projet. Donc c'est un prix qui semble assez logique. Un autre film qui a eu deux prix, le prix Netpack et le prix Guimet. Alors je ne sais pas exactement quels sont ces prix, je ne sais pas si vous savez ce que représentent ces jurys.
Bah, le prix Guimet, c'est le musée des arts asiatiques Émile Guimet, qui est un musée parisien qui va à Vesoul. Je pense que ça fait 10 ans qu'ils remettent un prix à peu près. Qui projettent eux-mêmes, ils ont un auditorium, donc ils projettent des films tout au long de l'année, des films en rapport avec l'Asie ou des films asiatiques. Et ils projettent également les films primés à Vesoul, ils en projettent 3 début mars.
Ah bah très bien, l'occasion d'aller voir tous les films dont Jérémy vous a spoilé la fin, donc vous connaissez le déroulement. Et donc ce film, c'est The Ferry de Shi Wei, qui relate le retour chez son père lors de vacances d'un jeune Chinois qui va dans une région complètement reculée en fait en Chine. Et son père s'occupe en fait de faire traverser les riverains d'un petit village d'une rive à l'autre. Donc c'est devenu sa seule activité. C'est une activité que fait sa famille en fait depuis des décennies, comme un tribut qui est payé au village qui les a reçus donc 3 ou 4 générations avant. Et forcément, le père veut que la tradition se poursuive, alors que le fils est un petit peu indécis et a plus des aspirations, on va dire, modernes. On sait qu'il a travaillé dans la ville. Donc cette problématique est développée dans le film qui interroge donc le poids des traditions, l'aspiration à la modernité, de la ruralité, de la Chine d'aujourd'hui. Est-ce que ces problématiques vous ont touché? Yannick?
Alors, si tu me donnes la parole, là, c'est mon gros coup de cœur, ce film. C'est vrai que j'ai adhéré à 100% à l'esprit du film, j'ai adhéré à la façon dont c'est filmé et à une musique vraiment merveilleuse. C'était vraiment incroyable, une super expérience. Bon, c'est le genre de film qu'on a déjà vu, mais c'est vraiment le genre qui me plaît, auquel j'adhère vraiment. Pour moi, tout est parfait, l'esthétique, la photo, la prise de vue, tout est bon. J'ai aucun point négatif sur ce film.
Bon, moi je dirais que j'ai bien aimé la musique, mais je l'ai trouvée un peu redondante parce qu'il y a quand même deux thèmes
Y a une
pendant. Et
composition,
voilà,
du coup.
il y a un thème pendant le film qui est utilisé à toutes les sauces quand même et qui revient toutes
Et
les
papy fait de la
3-4
télé, il y a la
minutes.
musique, et papy
Voilà, dès qu'il y a une
enlève
activité dans
les
le film,
bouteilles.
C'est
c'est
un peu comme
cette
les
musique.
musiques de Heizaichi pour les films de Kitano. Voilà, c'est toujours redondant, un thème qui revient, qui nous reste en tête et qu'on n'arrive pas à sortir.
Ouais, moi il est un petit peu trop resté, mais bon. Marie-Pauline, tu as bien aimé aussi ce
Alors,
voyage en bateau.
oui, moi j'aime bien le film. Je suis d'accord avec Yannick pour dire que ça reste en même temps un film assez classique. Effectivement, il y a des images magnifiques, mais vu où c'est filmé, je pense qu'il est absolument impossible de ne pas avoir des belles images. Donc voilà, on va pas forcément porter ça au crédit du réalisateur non plus.
C'est dans les lointaines montagnes d'Enshi.
Voilà, effectivement, c'est sublime, on a envie d'y partir en vacances. Moi, ce qui m'a intéressé dans le film, c'est la relation entre le père et le fils, que j'ai trouvé assez ténue et assez jolie, puisque c'est vrai que ce fils qui revient et qui critique son père et qui comprend pas pourquoi il fait ça et tout, et qui petit à petit il se croit obligé hein, vraiment de l'aider. Et bon, c'est pareil, le film reste assez ouvert, on ne sait pas vraiment s'il est convaincu. Moi je pense qu'il n'est pas convaincu qu'il a passé un été à aider son père et que il n'est pas mécontent de repartir. Mais alors moi ce qui m'a passionné vraiment dans le film, c'est le personnage du père, qui est cette espèce de bloc de loyauté limite absurde, puisqu'il continue à être loyal à une promesse effectivement faite 3 ou 4 générations avant, et il a limite gâché toute sa vie pour continuer à respecter cette promesse en faisant ses allers-retours en bateau, quel que soit le temps, en étant toujours à côté au cas où quelqu'un aurait besoin de lui. Enfin, il a élevé ça au rang de sacrifice ultime. Et je trouve que le film ne donne pas d'avis, il dit pas c'est génial, regardez cet homme, il faut faire comme ça, il dit pas non plus il est vraiment idiot, il faut pas faire comme ça. Je trouve que le film montre ça avec ce que ça a d'absurde et nous laisse réfléchir dessus. Et moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant, puisque oui, c'est complètement absurde quand on réfléchit 2 secondes et quand on le voit faire et quand on voit tout le film montre ce principe qu'il a, ces principes qu'il a érigés en règles de vie. Et qui veut transmettre à son fils, et alors il lui annonce les règles, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il faut pas laisser les gens attendre, les gens sont stressés s'ils attendent trop longtemps. Et voilà, moi je trouve ça passionnant, pas forcément parce que je trouve qu'on devrait faire comme ça, mais plus dans ce que ça montre, dans ce que ça raconte de ce personnage. C'est un personnage qui est complètement obsédé par une tâche qu'il a à accomplir finalement.
Ouais, c'est marrant parce que moi, par contre, cet aspect de mystère que tu évoques et finalement de liberté que peut avoir le spectateur par rapport au jugement qu'il va avoir, je ne l'ai pas vraiment ressenti en fait. J'ai trouvé que le film guidait quand même le spectateur pour qu'on ait le même parcours du fils, du personnage principal. Et moi, je l'ai trouvé beaucoup moins ambigu que toi en fait. Enfin, d'une part, à cause de la manière dont les paysages sont montrés. on nous dit, de par la magnificence des paysages, c'est quand même là qui est la vraie beauté, qui est la vraie vie, et ça semble être un peu absurde, justement, au contraire, d'aller chercher une modernité, voilà, un pont ou dans une ville, où finalement, même la richesse ne vient pas, parce qu'on sait que le fils qui est parti donc vivre une vie moderne en ville a quand même raté son expérience, donc c'est la raison pour laquelle il revient, il va pas faire fortune. Et donc on nous dit, enfin, quand même la vraie beauté de la Chine, elle est dans ces paysages qu'on nous montre et pas dans les villes. Et après, dans l'apprentissage que fait le fils, effectivement, il y a des règles qui sont absurdes, mais il a raison. Il suffit qu'il ne suive pas une règle que lui dise son père pour que finalement, soit les marchandises tombent dans l'eau, soit quelque chose se passe mal. Donc au fur et à mesure, je trouve que le fils est convaincu par le discours de son père. Et le spectateur, qui forcément au début n'est pas du tout convaincu en se disant, c'est un vieux fou qui vit dans une cabane et qui a fait une promesse millénaire, qui fait traverser des gens pour rien. Finalement, on se rend compte que là résident les vraies valeurs traditionnelles de la Chine, qu'on a raison quand même de préserver cette ruralité qui est menacée de toutes parts par la Chine, qui n'est pas trop critiqué d'ailleurs dans le film. Donc je trouve qu'au contraire, il y a un côté très, très passéiste et très didactique du film, et que le spectateur a un peu pris par la main pour accepter un peu toute cette, tout ce cheminement. Et ça, c'est un truc qui, moi, j'ai pas vraiment adhéré justement à ce discours-là, et donc pas du tout au discours du film dans son ensemble. Ouais. C'est plutôt ce côté passéiste en fait qui m'a vraiment gêné. Ouais.
Je pense que ça a été tourné justement de façon à ce que le public, le spectateur, se fasse sa propre opinion si vraiment c'est ça la vie ou si vraiment c'est une vie de misère. Quoi.
Bah oui, mais elle a l'air quand même bien sa vie. Enfin, il a de l'amitié, il a de la loyauté. Il tombe amoureux d'une jeune villageoise qui va l'attendre pour se marier. Enfin bon, il respecte quand même une tradition. Moi, à mon avis, je vois pas très bien où est l'ambiguïté.
Je suis d'accord avec toi, qu'en plus, je trouve pas qu'il y ait vraiment de fin ouverte, comme tu disais, parce que quoi, il fait aucun doute que ce type il va revenir. Quoi, on le sent, et puis tout va bien parce que papa a accepté d'installer une télé quand même dans sa bicoque.
Il a fait des compromis.
Donc ouais. Il a fait des compromis. Voilà, tout est bien qui finit bien.
Ouais, mais si c'était si simple, il y aurait une vague de reconnaissance autour, alors qu'en fait, on voit que les villageois, finalement, ils sont pas si reconnaissants que ça.
Ah, ils leur offrent quand même des trucs.
Ils disputent le gars parce qu'il arrive, il vient trop tard et qu'il, soi-disant, il l'avait pas entendu. Enfin, il y a quand même un côté, lui, tout ça, il le fait, mais il le fait pas du tout pour la reconnaissance.
Ouais, mais ce monsieur-là qui tabasse le pauvre Pépé, il revient lui installer la télé à la fin, quoi. C'est lui qui lui installe sa télé, et il y a un petit signe de tête poli du genre, ouais, excuse-moi, je t'ai frappé, mais je t'installe la télé.
Il y a un personnage qui n'est pas reconnaissant, et finalement, le film montre que s'il le sert...
C'est ça, je suis un vieux grincheux, mais au fond...
S'il le sert, et qu'il n'y a pas de discrimination par rapport à cette personne, la personne va quand même... Enfin, c'est une question un peu de karma qui revient. La personne va quand même se montrer reconnaissante à la fin. Et il arrive, il y a un personnage négatif, et finalement, à la fin, effectivement, il s'excuse, il vient lui remplacer, lui installer son antenne, il lui rend un service par rapport à l'échange, de la traversée qui est donnée. Ouais.
Puis c'est un film qui aurait eu plus d'impact, je pense, si on avait entreaperçu un peu plus la Chine d'ailleurs. Là, c'est vu qu'au travers de il y a 2-3 bouteilles de coca ou je sais pas quoi que le bonhomme ramasse, mais la situation de la Chine dans son ensemble, on l'a pas, on a que ce petit coin de paradis où
ouais, c'est ça, ça reste comme un coin de paradis. Ouais,
c'est
exactement.
Ça, c'est le dernier coin de paradis de la Chine. On a l'impression que c'est le dernier bastion de la Chine à l'ancienne. Et
qu'il faut sauvegarder, mais justement,
c'est l'office du tourisme qui produit.
Voilà, on a ce côté office du tourisme, passéiste, et de Chine rêvée. Enfin, moi, c'est un autre truc qui me dérange dans le film, c'est que le film est présenté comme une histoire vraie. Et en gros, par ça, nous dit telle qui est la Chine. La vraie Chine, c'est ça. Bon, la vraie Chine actuellement, c'est pas du tout ça, et moi j'ai un peu du mal à croire justement à ce petit coin de paradis, la terre sauvage, préservée, qui me semble quand même plus trop exister dans la Chine moderne, quoi. Et d'autant que ces valeurs traditionnelles et traditionnalistes aussi me semblent un peu trop idéalisées pour avoir un vrai impact réel.
Parce que c'est, parce que oui, parce que nous, on voit, on se dit, mais comme tu le disais tout à l'heure, il est un peu, il est un peu fou, ce vieil homme, de rester là, sans distraction, sans rien, à se sacrifier pour les autres, etc. Mais je pense que le spectateur chinois aura pas le même sentiment, quoi, la vision. Je pense qu'il y aura vraiment, il y aura une admiration pour cet homme-là. Et le Xi Wei nous dit vraiment que c'est bien, quoi, c'est le bon.
Ouais, bah c'est vrai que
C'est
j'ai
le bon
senti comme
chemin,
ça.
c'est le bon chemin à emprunter, quoi.
Et bon, c'est quand même une. Voilà, pour moi, une idéalisation
C'est ça.
d'une Chine qui n'existe plus et qui aussi est une manière de pas vraiment parler des problèmes actuels de la Chine en idéalisant cette Chine
Ça me fait
fantasmée.
penser
Cela
à...
dit, je m'engagerai pas trop. La Chine, c'est vaste. Je suis pas sûre qu'il n'existe pas encore des endroits très reculés. Tu sais, il faut pas non plus penser
Non, bien
que
sûr, ouais.
c'est la ville partout. Donc, de ce côté-là, sur le côté un endroit qui n'existe plus, je sais pas. Après, sur le côté idéalisé, c'est évident. Mais moi, je vois plus le film, je le voyais plus comme une fable humaine que comme regarder comment est la Chine. J'avoue que moi, je vois pas ça dans le film.
Yannick, un mot pour conclure sur quelque chose de positif, parce qu'on va
On
pas
est
casser tous
cynique,
les
nous, on est
films.
cynique.
Comme... Oui. Yannick,
Non,
un mot pour conclure, non,
pas mieux. C'est vrai que c'est très poétique, c'est vrai que c'est très contemplatif. Voilà, pour les amoureux des grands paysages.